Merci de m'avoir invité dans ce séminaire. Comme vous allez le comprendre, je ne suis pas du tout un spécialiste des sols, mais j'espère que ma contribution pourra intéresser. Donc, pour le plan de cet exposé, vous aurez d'abord l'origine, c'est-à-dire pourquoi j'ai fait cette recherche. Ensuite, je vous présenterai ce qui est publié. Et puis ensuite, ce qui n'est pas publié, quelques mots sur les outre-mer, parce que la majorité de ce que je vais vous montrer, c'est en France métropolitaine, mais nous avons aussi beaucoup de résultats dans les outre-mer. Et puis finalement, le sujet qui vous intéresse, j'imagine, le danger pour la faune des sols. Donc, pour l'origine, c'est une histoire que j'ai déjà racontée. C'est rare qu'on sache quand commence une recherche. Moi, je le sais très exactement. Donc, le 15 mars 2013, un amateur entomologiste, photographe, qui s'appelle Pierre Gros, à Cagnes-sur-Mer, dans son jardin, il a trouvé un ver très bizarre. Il a envoyé la photo sur un forum sur Internet. Et puis ensuite, je l'ai contacté et vous allez voir l'humour de la situation. Nous avons traité ce spécimen comme tout à fait unique et exceptionnel. Je vous précise qu'en 2013, je ne savais rien sur les platelminthes terrestres. Je suis fondamentalement un spécialiste de parasites de poissons, mais comme je suis un spécialiste de platelminthes parasites de poissons, j'avais tout de même quelques notions générales sur les platelminthes en général. Alors voilà la photo envoyée par Pierre Gros, donc le premier platelminthe terrestre repéré en France en 2013. Là où ça devient un peu plus inquiétant, c'est que le même amateur, dans le même jardin, m'envoie quelques semaines plus tard la photo d'un autre ver plat dans son jardin. Là, une bête de 5-6 cm de large, de long, marron. Et là, c'est devenu très inquiétant. Alors, nous avons mis en place un site internet, Twitter, email, et puis nous avons mis en place un travail de science participative. Et j'ai commencé à consacrer beaucoup de temps à cette recherche. La conclusion immédiate, en quelques semaines, c'est qu'il y avait des platelminthes terrestres en France, il y en avait partout, et certains n'avaient même pas de nom. Petit rappel de zoologie, ces platelminthes terrestres, ils font partie d'un groupe qu'on appelle les Tricladida, et ils appartiennent en fait tous à une seule famille, qui est la famille des Géoplanidés, qui comprend à peu près 300 espèces. Il y a une seule famille de platelminthes qui a réussi à s'adapter au sol, parce que bon, c'est un milieu quand même très hostile pour un animal qui a un tégument très mince et fragile. Bon, tout de même, en France, avant ce travail, on savait qu'il y avait des géoplanidés en France, en Europe, quelques rares espèces, petites, 5 à 10 mm, marron, très discrètes dans la litière, on n'en entend absolument jamais parler, et vraiment pour les trouver, il faut les chercher très attentivement. Et puis quand on fait appel aux sciences participatives, on se retrouve à recevoir des centaines et des milliers de photos de ce genre, de ce que les gens trouvent dans leur jardin. Donc des animaux qui font plus de 5 cm de long en général. Après quelques années, voilà le bilan de ce que nous avons trouvé en France. 10 espèces le moment trouvé en France. Et donc, je vais vous raconter ça dans l'ordre. D'abord, ce qui a déjà été publié, et puis ce qui n'est pas encore publié. Ce qui n'est pas encore publié, c'est parce que nous n'avons pas encore eu le temps de le faire. Le premier. Alors, le premier, c'est le fameux Platydemus manoquarii. Nous avons publié ça en 2014. Il a été trouvé dans un seul endroit en France. C'est la une serre du jardin des plantes de la ville de Caen. Et à l'époque, on avait imaginé qu'il pourrait se reproduire, sortir de la Seine, de la serre et envahir la France. Il ne l'a pas fait. Et donc, pour le moment, il est resté confiné dans cette serre. Voilà l'animal, 4-5 cm de long, une ligne sur le dos et deux yeux à l'avant. Et puis, voilà une photo qui a été reproduite par la plupart des journaux en 2014, où on voit le méchant Platydemus manoquarii en train de manger un gentil escargot bien français. Et ça a été publié dans Piaget, donc en 2014. Quand on voit la carte du monde des mentions de Platinémus Manéquari, on comprend bien que cette mention en France, c'est une mention dans une serre, puisque les autres mentions sont dans le Pacifique, dans un climat bien plus favorable. Ensuite, je barre en haut en France, hein. Ensuite, on a vu arriver des signalements d'un peu partout dans le monde. Et voilà ce qu'on a pu faire en 2015. Alors, quelques signalements de plus dans des territoires français, en Outre-mer, en particulier dans le Pacifique. Et puis, beaucoup plus important, le premier signalement en Amérique continentale à Miami, ça c'était en 2015. Quelques signalements de Platydemus à Miami. Et en 2020, maintenant, le ver a envahi la Floride, la Louisiane et une partie du Texas, et il est pratiquement partout. Ce qui est plus important aussi pour nous, Français, c'est que le ver a été repéré en 2019 en Guadeloupe. Nous avons publié ça en mai 2020, et le préfet du département de Guadeloupe a été très efficace, puisque le 7 juillet, l'espèce a été ajoutée à la liste des espèces interdites en Guadeloupe. Bon, structure génétique de ce ver, il y a deux haplotypes. Le ver, en principe, est originaire de la Nouvelle-Guinée. Nous n'avons pas eu d'animaux de Nouvelle-Guinée, nous en avons eu des îles Salomon. Dans les îles Salomon, il y a les deux. Un haplotype qui a envahi seulement l'Australie et un haplotype qui a envahi, par contre, le reste du monde. Donc, un seul haplotype a envahi plusieurs continents. On va passer maintenant aux géants. Alors, les géants, c'est la sous-famille des Bipalinae. Ils sont très faciles à reconnaître, même si vous n'y connaissez rien, parce que la tête est plus large que le corps. On a trois espèces en France et on a aussi deux espèces en Outre-mer. Donc, ça, on l'a publié en 2018, toujours dans PeerJay. C'est le fameux Bipalium coincé. Donc, ici, vous le voyez en train de tuer un ver de terre. Et voilà l'animal entier. Donc, un animal, quand même, qui fait jusqu'à 20-30 cm de long. Quand vous avez ça sur un sol, ça ne passe pas inaperçu. La reproduction des Bipalium, elle est clonale. Donc, sur cette image en haut, vous avez la tête d'un animal adulte. En bas, vous avez un animal adulte et la flèche rouge, ça vous montre la petite extrémité qui vient de se séparer à l'arrière du corps. Et cette petite extrémité que vous avez à gauche, cette petite extrémité, elle va faire repousser une tête et elle va donner un nouvel adulte. Donc, le petit, c'est simplement un morceau du corps, du parent. Et donc, l'animal est tout simplement un clone. Et donc, c'est le même clone qui envahit partout. Où est-ce qu'on trouve Bipalium coincé en France? Principalement dans le sud et surtout dans un département qui est très apprécié des platelminthes terrestres, c'est les Pyrénées-Atlantiques. Structure génétique, bien là, c'est simple. On a eu des spécimens d'un peu partout dans le monde, de plusieurs continents. Et si on regarde la structure du coin, donc la séquence d'ADN qui sert au barcoding, eh bien, c'est le même individu qui est partout dans le monde. Deuxième espèce de grand platelminthe, c'est le Diversibipalium multilinéatum. Il ressemble beaucoup à celui dont je viens de parler. Même taille, une 20-30 cm de long. La tête est un peu différente. Animal très spectaculaire aussi. Et répartition, la même chose, le sud de la France et surtout les Pyrénées-Atlantiques. Structure génétique, on a eu moins de spécimens, mais là aussi, il semble bien qu'on soit en face d'un clone. Il n'y a pas d'appareil sexuel dans les bipaliums. Hein, si on les coupe en coupe série, on ne trouve pas d'appareil sexuel. Découverte au passage, donc tout ceci a été fait par un travail de science participative, c'est-à-dire des citoyens nous ont envoyé des vers, et puis il y en a certains qui nous ont dit, on trouve bien les grands, mais on a l'impression qu'on trouve aussi des bébés. Et donc, ils nous ont envoyé ça. Et donc, une petite espèce de quelques centimètres, 1, 2, 3 centimètres. Et ben non, ce n'est pas un bébé, c'est une espèce à part. Et sa particularité, bien, ben, c'est qu'elle n'a jamais été décrite. Et on est en train de la décrire et d'essayer de lui donner un nom. Et cette espèce non décrite, on a deux localités dans les Pyrénées-Atlantiques et on a une localité en Italie où elle est très abondante. Et on a probablement des signalements en Chine, en Russie et peut-être ailleurs. Si on sort de France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique, Réunion, il y a Bipalium vagum, qui est une espèce très spectaculaire, mais qui ne fait que 4-5 cm de long. Et puis, cette espèce magnifique bleue qui n'a été trouvée qu'à Mayotte. Bon, on va passer maintenant à une espèce qui n'est pas limitée aux Pyrénées-Atlantiques, qui est le fameux Obama Nungara. Alors, pour l'étymologie du nom, ce n'est pas le sujet, on n'a pas le temps, mais tout peut s'expliquer. Cette espèce a été trouvée dans 72 départements en métropole, donc elle est pratiquement partout, et surtout, son abondance locale est énorme. On nous a rapporté des jardins où il y en a des centaines et des centaines, et des jardins où les personnes en ramassent des dizaines tous les jours pendant des semaines, et ils continuent à en ramasser des dizaines tous les jours après plusieurs semaines, parce que la population se reproduit et est énorme. Bon, voilà Obama Nungara, un animal marron sur le dessus. Ça, c'est une photo qui est passée dans les journaux, parce que, mon Dieu, il avait été trouvé à Paris, donc comme c'était à Paris, c'était important. Voilà une photo qui montre la face ventrale, donc beige en dessous, marron au-dessus, avec une grosse variation de couleur, puisqu'il peut aller du marron noir jusqu'à l'orange vif, comme vous le voyez ici. C'est toujours Obama Nungara. Un animal qui a de très nombreux yeux à l'avant. Tous les petits points que vous voyez en bas de la tête, là, ce sont des yeux, des centaines d'yeux. Obama Nungara, lui, il a bien conservé la reproduction sexuée et ça lui permet de fabriquer des structures qu'on appelle des cocons de ponte. Donc, ce sont des petites boules de 4 mm qui sont marron foncé ou noir et qui sont résistantes. Donc, vous imaginez bien que si un Obama Nungara va poser un cocon de ponte dans un pot de fleurs, il n'y a aucun moyen de le repérer et que donc ce pot de fleurs va pouvoir être acheté, transporté, etc. Et chaque cocon de ponte va donner entre 2 et 10 jeunes Obama Nungara qui seront contents d'envahir un nouveau jardin. Structure génétique. Nous avons pu étudier la structure génétique, encore une fois, barcoding Cohen. Il y a trois populations repérées dans le monde, Argentine 1, Argentine 2, Brésil. Et tous les spécimens que nous avons trouvés en France appartiennent à une seule population, donc la population qu'on appelle Argentine 1. Fin pour Obama Nungara. Je passe très rapidement sur cette espèce qui est Marion Fifea adventor. Ça, ce n'est pas notre travail. Ça a été fait par mes collègues Jones et Sluice. Simplement pour vous faire remarquer que cette espèce a été décrite en Europe alors qu'elle avait déjà envahi plusieurs pays d'Europe. Ces chercheurs, ils avaient déjà des spécimens de plusieurs pays quand ils ont commencé à la décrire. Et ça, c'est assez commun chez ces espèces invasives. On commence à se rendre compte de leur présence quand elles ont déjà envahi plusieurs pays ou même l'Europe entière ou le monde. Voilà, vous avez maintenant fait le tour de ce qui a déjà été publié. Je vais maintenant vous montrer ce qui n'est pas encore publié ou à peine publié. Donc, la fameuse espèce récoltée par Pierre Gros en 2013. Au début, on était bien ennuyés pour lui mettre un nom. Dans un premier temps, on l'a appelée Xenoplana bicolore. Et puis, des collègues ont vu qu'il y avait un problème taxonomique. Et maintenant, elle s'appelle Xenoplana variegata. Donc, depuis 2020, son nom, c'est Xenoplana variegata. Elle est dans 20 départements et il y a des abondances locales assez énormes. Quand même une bête qui fait jusqu'à 10-12 cm de long et puis qui est bien visible parce que, bon, elle a un fond marron-noir, mais une bande jaune bien vive sur le dessus. C'est un prédateur d'arthropodes. Donc ça, c'est le résultat du repas d'un Cénoplana bicolore à qui on a proposé un certain nombre de proies du sol. Les cloportes, qui bien sûr sont des animaux relativement sans défense, hein, les petits crustacés. Et puis quand même, là, vous voyez un gros myriapode qui en principe est un prédateur. Eh bien, Cénoplana variegata est un prédateur de prédateurs. Et on m'a envoyé récemment cette photo qui montre la prédation sur une grosse araignée, qui elle aussi normalement est un prédateur. Mais vous voyez, le Cénoplana variegata qui transforme avant à gauche une araignée en bonne santé en une espèce de squelette vide où il a pompé toute la substance nutritive. Donc un super prédateur des animaux du sol et des arthropodes du sol. Deuxième espèce dans le genre Cénoplana, c'est Cénoplana cerulea, seulement dans à peu près 7 départements, jamais très abondant. Il y a aussi un problème taxonomique avec cette espèce, je vais vous le montrer. Et en anglais, c'est le blue flatworm. Alors voilà Cénoplana cerulea, une ligne sur le dessus. Et si vous retournez l'animal, en fonction de la lumière, il peut paraître vaguement bleuté ou même franchement bleu-violet. Donc le blue flatworm. Cénoplana cerulea, c'est la seule espèce de platelmint terrestre en France pour laquelle nous avons eu un signalement en milieu naturel. Tous les autres signalements que nous avons eus, plus de 1000-1200 signalements, c'est toujours dans des jardins. Ça, c'est nous avons eu un signalement en milieu naturel dans l'île de Ré parce qu'il y a eu une enquête écologique à cet endroit. Pourquoi nous n'avons pas de signalement en milieu naturel ailleurs? Probablement parce que ça n'a pas été fait. Et puis d'autre part, nous avons un biais de science participative qui est qu'on reçoit toujours plus d'informations des gens dans leur jardin avec leur smartphone que des gens qui sont au milieu de leur champ avec leur tracteur. Bon, il y a une espèce jumelle pour Cénoplana cerulea, c'est Cénoplana décolorata. On ne peut pas la distinguer sur son aspect. On peut la distinguer avec le côté. La nouvelle espèce Cénoplana décolorata a été décrite il y a seulement quelques semaines. Du coup, j'ai vérifié les séquences que j'avais déjà, que j'avais appelées Cénoplana cerulea, et on a trouvé qu'on avait aussi en France Cénoplana décolorata. On a publié ça comme préprint il y a. Alors, maintenant, passons à cette espèce qui s'appelle Paracontichia ventrolineata. 15 départements, surtout dans la façade atlantique et surtout en Bretagne, localement très abondante dans certaines parties de la Bretagne. Elle est nécrophage et elle a une particularité bizarre et inexpliquée, elle aime le sucre. Donc voilà Paracontichia ventrolineata, 2, 3, 4 cm de long. Les couleurs sur cette photo sont un peu forcées. En fait, de loin, on voit un vert pratiquement noir. Quelques yeux à l'avant sur la tête. Et puis voilà ce que vous avez dans un jardin. Vous avez un Paracontichia ventrolineata. Alors, si vous voulez savoir s'il y en a dans un jardin ou une parcelle, vous écrasez un escargot ou un ver de terre le soir. Et quand vous revenez le lendemain matin, vous avez 10, 20, 30, 50 Paracontichia ventrolineata qui sont nécrophages et qui sont sur l'animal mort et écrasé. Éventuellement aussi sur une souris morte, etc. Et là où c'est tout à fait curieux, c'est que cet animal a un comportement tout à fait étrange. Ils aiment bien s'agglomérer dans les trous faits dans les fruits et les légumes par les limaces. Et bon, c'est très, très désagréable pour le jardinier amateur parce que vous allez cueillir vos fraises le matin et vous avez une fraise remplie de ce ver gluant. Bon. Ce n'est pas vraiment une conclusion, mais comme vous le voyez, ça c'est une carte qu'on avait fait en 2015. Maintenant, on sait qu'on a au moins 72 départements avec au moins une espèce, puisque Obama Nungara est dans au moins 72 départements. Là, vous avez une liste de départements. Vous voyez que c'est surtout façade atlantique, façade méditerranéenne, des départements où on a jusqu'à 5 ou même 6 espèces dans un seul département. Alors maintenant, le danger pour la biodiversité, vous allez voir que mon exposé va devenir beaucoup plus limité. Je vous rappelle que je ne suis pas un spécialiste des sols. Je sais une chose, c'est qu'il y a un article bien fait sur le sujet. Alors, on a plein de rapports, on a plein de rapports anecdotiques montrant que ces animaux sont tous des prédateurs et qu'ils mangent les animaux du sol. On est tous d'accord là-dessus. Tous sont des prédateurs, mais une étude sérieuse écologique, à ma connaissance, il n'y en a qu'une seule. Donc, Murchu et Gordon, publié en 2013. C'est sur une espèce qui s'appelle Arthur dandius triangulatus, qui n'est pas présente en Europe continentale, qui est seulement limitée aux îles Britanniques pour le moment. Une espèce australienne, bien sûr, hein. De Nouvelle-Zélande, pardon, de Nouvelle-Zélande. Et c'est un travail, là, un travail fait par Murchu et Gordon sur 4 ans. En Irlande. Donc, les résultats, bah, très brièvement, en présence du platelminthe, avec une densité d'individus de 0,8 individus par mètre carré, ce qui n'est pas beaucoup, ce qui est beaucoup moins que ce qu'on peut observer dans certains endroits pour cette espèce, hein. La biomasse totale des vers de terre diminue de 20%, et puis la biomasse des anésiques, donc les vers de terre qui sont capables de faire des trous verticaux dans le sol, elle passe de 4 à 1,5 grammes par mètre carré. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que les vers de terre sont très importants pour l'écologie des sols et que quand donc vous avez des animaux qui diminuent la biomasse des vers de terre de 20%, les conséquences sur la biologie des sols sont sûrement importantes. Et là, je mets en rouge. Le problème, c'est que nous n'avons aucune expérience de ce type n'a été pratiquée sur les espèces qui sont en Europe continentale, en particulier sur Obamanungera, qui est partout et qui est un prédateur de vers de terre et de mollusques. Et nous n'avons aucune expérience de ce type sur les bipalinés, qui sont quand même des animaux de 20-30 cm de long et qui, eux, sont spécialisés comme prédateurs de vers de terre. Et je pense qu'il faudrait que quelqu'un le fasse. Bon, rapidement, je vous parle de en dehors de la France. En dehors de la France, le climat est souvent plus tropical dans les possessions françaises, donc il y a plus de facilité pour ces espèces exotiques de s'implanter. Donc, cette espèce à Tahiti, Endeavoria septemlineata linéata. Et puis, cet article sorti exactement hier, où nous avons signalé la présence de Amaga expatria en Guadeloupe et en Martinique. C'est quand même une espèce tout à fait spectaculaire qui fait 12 à 15 cm de long, qui n'avait été connue que par deux spécimens décrits en 2005. Donc, on n'avait aucune information sur cette espèce. Elle avait été décrite de deux spécimens trouvés dans les Bermudes. Et puis, grâce aux sciences participatives, grâce aux personnes qui ont envoyé des photos de cette espèce dans leur jardin, on a eu quand même 20 signalements en Guadeloupe et en Martinique. Et voilà tous les points rouges sont les endroits où on a trouvé Amaga expatria, donc pratiquement partout dans les deux départements d'outre-mer. Donc voilà la conclusion sur la liste de ces espèces. Vous voyez qu'elle d'endroits bien différents, Papouasie, Vietnam, Asie, Amérique du Sud pour Obama, Nouvelle-Zélande. Bien entendu, toutes ces espèces, elles n'avaient pas envie de venir, hein. Tout ça, c'est à cause du transport des plantes en pot ou du transport des plantes. Et ce sont toutes des espèces qui envahissent l'Europe et le monde parce que l'homme transporte des plots et des plantes. Merci beaucoup. Je suis toujours un qui connaît les platelminthes terrestres, mais je suis aidé surtout par Leigh Windsor en Australie, pour lequel c'était sa propre carrière. Voilà,
Merci.
j'ai mis à la fin du biographie rapide.